Les métaux comme l'or, le cuivre et le nickel sont indispensables à notre mode de vie. On les retrouve dans une vaste gamme de produits. On peut penser aux téléphones intelligents, aux matériels de cuisine, aux vêtements, aux produits électroniques, aux moyens de transport, aux matériaux de construction, la liste est sans fin. Alors, comment pouvons-nous nous assurer d'avoir un approvisionnement continu de ces métaux? Et comment les experts trouvent-ils de nouveaux gisements de minerais pour répondre à la demande future? Nos scientifiques travaillent d'arrache-pied pour trouver des réponses à cet égard. Demeurez à l'écoute pour en savoir plus. Bienvenue à ce nouvel épisode de La Science Simplifiée, le balado qui vous parle de l'excellent travail scientifique que font nos experts à Ressources naturelles Canada. Je m'appelle Joël Hull. Aujourd'hui, nous parlerons de gisements de minerais. Fait amusant, saviez-vous que le Canada produit 60 types de minéraux et de métaux différents? On retrouve chacun de ces minéraux et métaux dans des gisements différents qui ont leurs propres caractéristiques. Les scientifiques étudient ces gisements pour mieux comprendre comment et pourquoi ils se sont formés. Et ces recherches facilitent la découverte de nouveaux gisements potentiels. C'est avec plaisir que nous accueillons aujourd'hui deux scientifiques qui nous expliqueront comment ils relèvent ce défi herculéen. Et sans plus tarder, voici nos invités. Avec nous aujourd'hui, nous avons Patrick Mercier-Langevin et Michel Houlet de la Commission géologique du Canada au bureau à Québec. Bonjour, ça va bien?
Oui, ça va bien, Joël, et toi? Alors, bonjour, Joël, ça va bien?
Oui, super, merci. ça commence bien. Est-ce que vous pouvez commencer par vous introduire et puis nous parler un peu de vous?
Patrick Mercier-Langevin. Je suis effectivement chercheur scientifique à la Commission géologique du Canada au bureau de Québec. Je suis originaire de Chicoutimi, une petite ville au nord de Québec, où j'ai fait un baccalauréat en génie géologique, suivi d'une maîtrise au même endroit, à l'Université du Québec à Chicoutimi. Tout ça s'est terminé en 2000. J'ai déménagé en 2000 à Québec pour commencer un doctorat à l'INRS, l'Institut national de recherche scientifique, sur un projet de la Commission géologique du Canada, d'ailleurs, donc que j'ai fait de 2000 à 2004. Et puis j'ai par la suite déménagé à Val-d'Or pour travailler pour l'industrie minière, une compagnie très active dans le secteur, Minagnico Eagle. Donc, j'étais géologue de projet pour eux, en exploration, pendant 2 ans. Et puis, en 2006, la Commission géologique a ouvert un poste à la Division de Québec pour un chercheur. Et puis, j'ai appliqué et j'ai obtenu. Donc, en 2006, je suis revenu à Québec. Et depuis ce temps-là, je suis à la Commission géologique. Donc, ça fait maintenant 17 ans.
Wow. Et toi, Michel?
Oui, moi, je suis Michel Houlet. Je suis également chercheur à la Commission géologique du Canada, basé au bureau de Québec. Moi, en fait, je suis originaire de Montréal, mais j'ai fait mon baccalauréat et ma maîtrise à Québec, à l'Université Laval en géologie. Puis par la suite, en fait, moi, je suis déménagé, je suis allé faire mon doctorat en Ontario, un programme en collaboration avec l'Université d'Ottawa et l'Université Laurentienne, que j'ai commencé dans les années 2000. Et par la suite, j'ai travaillé pendant 6-7 ans comme un chercheur géoscientifique à la Commission géologique de l'Ontario, basé à Sudbury, puis j'ai commencé à la Commission géologique en 2009, ici au Bureau de Québec.
Alors, votre recherche a pour but d'améliorer notre compréhension de gisements de minerais. Qu'espérez-vous apprendre et pourquoi vous intéressez-vous à ce type de gisement?
Il y a plusieurs raisons qui expliquent l'intérêt. On est principalement intéressé à comprendre comment, pourquoi et où se forment les gisements. Si les gisements sont importants pour l'économie canadienne, ça génère des emplois, ça génère des revenus. On a besoin des métaux dans la société. Donc, nous, comme chercheurs scientifiques, vraiment, l'intérêt, c'est de comprendre comment ces gisements-là se forment, puis de quelle façon et où. L'idée pratique derrière ça est de contribuer à améliorer les guides d'exploration. Dans notre cas, c'est vraiment l'exploration, c'est au niveau de l'exploration qu'on intervient ou que nos connaissances sont les plus utilisées. Et puis l'idée d'améliorer des guides d'exploration, c'est toujours de réduire les risques qui sont associés à l'exploration. C'est une activité qui coûte très cher. Explorer pour des gisements, ça prend du temps. C'est pas facile. Et puis c'est des coûts énormes. Donc pour essayer d'améliorer l'exploration et réduire le risque associé à ça, il faut avoir une bonne idée de où on veut explorer. Donc, nous, en ayant une meilleure connaissance du contexte géologique, la façon dont se forment les gisements, on est en meilleure position pour dire où est-ce qu'il y a le meilleur potentiel, où est-ce qu'on doit mettre les efforts d'exploration, où on doit dépenser l'argent. L'idée, c'est effectivement d'essayer d'optimiser la façon dont on dépense l'argent, mais aussi de réduire l'impact des travaux d'exploration. On veut pas, l'industrie ne veut pas aller déranger l'environnement ou les communautés dans un secteur où il n'y aurait pas un bon potentiel. Il faut avoir une bonne raison pour aller faire de l'exploration. Et puis ces raisons-là, ben, c'est basé sur les connaissances qu'on a du territoire. Puis c'est là qu'on intervient, nous, comme chercheurs scientifiques, en essayant de mieux comprendre comment les gisements se forment. Et quand on comprend mieux ça, on est en meilleure position pour dire où est-ce qu'il y a un meilleur potentiel. Donc, ceci étant dit, l'objectif officiel, mais comme personne, nous, on considère que c'est une chance incroyable de pouvoir étudier des concentrations de métaux comme ça. On adore ce qu'on fait dans les deux cas. Moi, je suis spécialisé un peu plus dans l'or. Donc, c'est vraiment captivant comme sujet. Donc, c'est la partie peut-être un peu plus personnelle de la motivation au jour le jour de faire ce qu'on fait. Mais ceci étant dit, on a un mandat qui est clair à Ressources naturelles Canada, qui est d'améliorer les connaissances de la géologie du pays, incluant le potentiel pour les ressources minérales. Donc, on doit générer des connaissances qui sont publiques, disponibles à tous, ce qu'on appelle souvent des connaissances pré-compétitives. Donc, c'est pas l'industrie qui génère ces connaissances-là dans un but compétitif. Nous, c'est des connaissances qui sont publiques et qui peuvent être utilisées à différentes sources. Oui, pour l'industrie, dans notre cas, c'est plus spécifique aux métaux et à leur exploration, mais c'est des connaissances qui vont servir à toutes sortes de raisons. Donc, l'utilisation du territoire en tant que tel, mieux on le connaît, mieux on est en mesure d'en faire une utilisation qui est correcte. Donc, c'est important, c'est pas trivial. Pour le pays, c'est très important. L'industrie ou le secteur des minéraux au Canada, on parle de quelque chose qui contribue environ à 35 ou 40 milliards de dollars. Ça, c'est les chiffres de 2021. Donc, c'est très important comme industrie, comme source de revenus. Le pays, on a produit comme 60 minéraux dans 200 différentes mines au pays en 2021. Le secteur contribue à environ 6 % du produit intérieur brut. Donc, c'est une activité qui est très importante. On parle de plusieurs centaines de milliers d'emplois directs qui sont associés à ça. Donc, c'est tout un peu les raisons, je dirais, là, pour pourquoi la Commission géologique du Canada ou Ressources naturelles Canada est impliquée à ce niveau-là, au niveau de mieux comprendre la géologie, essayer de contribuer à améliorer les guides d'exploration.
Oui, définitivement, c'est un secteur important. Alors, pourquoi est-il important à l'heure actuelle de chercher à améliorer les méthodes de repérage de gisements rentables? Qu'est-ce qui motive ce genre de recherche?
En fait, ce qui motive ce genre de recherche-là, nous, en étant comme métallogénistes, pour l'étude des gisements métallifères, là, on a deux raisons principales aussi, là, si on veut, pour améliorer nos connaissances. Initialement, au niveau scientifique, là, ça nous permet aussi de comment de mieux comprendre l'évolution de ces systèmes minéralisés-là à travers le temps, au niveau de la Terre, mais aussi, comme Patrick mentionnait, au niveau là, de développer des modèles d'exploration les plus adaptés afin d'identifier là, les environnements géologiques là, les plus favorables là, à ce niveau-là. Okay. Puis justement, là, on travaille souvent là, dans l'étude de ces modèles-là, un peu là, avec un concept des systèmes minéralisés. Là. En fait, c'est un concept, là, c'est qu'en fait, on s'en va un peu. C'est comme si on essaye pour former un gîte métallifère, ça prend des conditions excessivement spécifiques, là, parce que c'est pas des choses qui arrivent de façon évidente, puis si on veut, là, de façon, comment je pourrais dire, tout le temps, c'est quelque chose qui est quand même assez inhabituel, c'est quelque chose qui est anormal. Puis pour ça, justement, le concept des systèmes minéralisés amène, là, si on veut, quelques étapes là. En fait, hein, 6 étapes principales, que principalement, ça nous prend une source, OK, pour le concept de système minéralisé. Ça veut dire que ça nous prend une source de métaux à quelque part. Après, par la suite, ça pourrait être, par exemple, là, des magmas en profondeur ou dépendamment du type de gisement, de système minéralisé dans lequel on parle. Parce que si on parle comme un système minéralisé un peu plus comme moi, j'étudie le nickel versus Patrick qui est plus spécialisé dans les gisements orifères, ben les concepts, le concept reste le même, mais c'est un peu différent là, si on veut. Fait, comme je disais, c'est qu'on commence là, ça nous prend une source de métaux pour former ces gisements-là. Après, ça nous prend un système ou, si on veut, un espèce de conduit pour amener ces métaux-là dans un endroit un peu plus là, pour les transporter dans une zone favorable de dépôt et finalement pour les accumuler. Et par la suite, évidemment, comme il y a énormément là, d'activités au niveau de l'évolution de la Terre, mais ces gisements-là, après que ce soit formé, ils doivent également être préservés. Okay? Fait que c'est, comme je disais, c'est plusieurs étapes pour former. Et la formation d'un gisement, c'est une anomalie dans le sens que on ne trouve pas ça là, n'importe où. C'est pour ça que justement faire la recherche qu'on fait nous permet vraiment d'identifier les facteurs qui sont les plus favorables et le contexte le plus favorable pour où est-ce que toutes ces conditions-là vont se retrouver pour former un gisement métallique et éventuellement là, pouvoir là, l'exploiter.
Alors, votre recherche, votre travail, ça consiste en quoi au juste? Est-ce que vous allez visiter le terrain même ou les zones qui pourraient qui pourraient avoir des gisements de terrain? Est-ce que c'est plus du travail de bureau?
Au niveau du type de travail, c'est un travail qui est excessivement diversifié, que je pourrais dire, en fait. C'est que, évidemment, notre travail est géré aussi, ou si on veut, il est un peu dirigé ou guidé par les différents programmes qu'on a à la Commission géologique. Comme, par exemple, présentement, un de nos programmes qui guide beaucoup nos problématiques scientifiques, c'est l'initiative géoscientifique ciblée, OK, qui un des aspects, c'est d'étudier les systèmes minéralisés typiques, OK, pour mieux les comprendre et afin de pouvoir en trouver des nouveaux. OK, mais pour revenir un peu à ta question, Joël, c'est qu'en fait, notre emploi ou notre emploi du temps est excessivement varié dans le sens que il y a plusieurs étapes qui est inclus là-dedans. C'est qui, comme je dirais au début, ce que je devrais mentionner, c'est que c'est un mélange de travail sur le terrain, de travail en laboratoire et de bureau là, qui implique beaucoup, par exemple, l'utilisation des ordinateurs et de la technologie. Mais juste pour vous donner là une petite idée un peu comment ça se passe, c'est que la première étape, et évidemment, là, pour commencer nos travaux, c'est de faire une planification de terrain. Ça veut dire que c'est un peu comme si on planifiait un voyage, dans le sens que une fois qu'on a ciblé la région qui va nous permettre de répondre à notre problématique scientifique, ben il faut planifier justement ces travaux de terrain-là avec ça peut aller jusqu'à l'embauche d'une équipe avec des étudiants, des collaborateurs universitaires, de l'industrie, ainsi de suite, de planifier où on va rester, ainsi de suite, le logement, le transport, ainsi de suite. Ça, c'est la première étape. Une fois que ça, c'est planifié, bien, on va faire comme tel l'activité de terrain, OK, qui est la campagne de terrain qui va s'échelonner au Canada ici, bien, c'est certainement le plus régulièrement, c'est pendant la période estivale, là, je dirais de mai à octobre, si on veut, là, quand il n'y a pas de neige, que généralement les terrains sont plus accessibles. Puis ça, c'est vraiment cette portion-là, c'est l'acquisition des données. Fait que l'acquisition des données est quand même diverse, mais ce qu'on implique, là, c'est la collection d'échantillons sur le terrain, c'est de prise de notes, des observations qu'on fait sur des affleurements et tout ça. Et on rapporte tout ça au bureau pour passer à la prochaine étape. Par exemple, toutes les données qui ont été récoltées sur le terrain, des échantillons entre autres, bien, ceux-là vont faire l'objet d'une analyse un peu plus poussée. C'est-à-dire qu'on va préparer des échantillons pour faire, par exemple, des analyses géochimiques, pour faire des lames minces, pour faire des divers travaux pour mieux caractériser, par exemple, les roches qui sont associées avec la minéralisation ou la minéralisation en tant que telle. Par la suite, ben, pour faire exactement l'intégration de toutes ces données-là, des données qui ont été collectées durant la campagne de terrain actuelle, mais également de ce qui a été fait dans la région auparavant. Et finalement, ben après, on va faire la diffusion de nos données scientifiques, de nos résultats à différentes audiences. Que ça va être une audience là où, de communauté scientifique, ça pourrait être aussi dans des cadres de réunions avec l'industrie ou avec le grand public aussi dans des congrès ou dans des activités comme le podcast d'aujourd'hui.
Wow, c'est une variété de choses. J'aime la flexibilité de tout ce genre de travail différent. Michel, est-ce que tu anticipes faire aller dans le terrain prochainement?
Oui, en fait, je prévois aller sur le terrain là, d'ici quelques semaines, là, où, ici au mois de février, là, en plein hiver, comme je vous disais, généralement, le terrain est plus en période estivale, c'est parce que essentiellement, surtout quand on va observer des affleurements rocheux. Mais dans la question aussi, c'est que comme on travaille en collaboration aussi énormément avec l'industrie, ben ma prochaine campagne de terrain, en fait, c'est je vais voir étudier des carottes de forage. C'est pour ça que je peux y aller en plein au mois de février. Ben, c'est que je vais aller visiter un camp d'une compagnie minière pour faire des observations et collecter des échantillons à ce niveau-là.
Wow! Alors, tu vas aller dans le nord du Québec en plein milieu du mois de février. Vraiment, tu es dédié à ton travail.
C'est sûr que c'est pas les conditions idéales, mais c'est quand même là, des choses qui sont faisables. Puis c'est... Mais c'est sûr qu'il ne fera pas 20-25 degrés dans les prochaines semaines sur ma prochaine campagne de terrain.
Alors, à quel stade en sont les choses en ce moment et qu'est-ce que vous entrevoyez pour l'avenir de votre étude?
Il va y avoir probablement beaucoup de belles choses. Je pense qu'on va faire face à plusieurs défis dans un avenir rapproché ou futur. Certainement que vous avez entendu parler de l'importance des minéraux et métaux critiques pour la transition future vers une économie plus verte. Donc, ça, en soi, ça va représenter un défi. Mais il y a d'autres éléments qu'il faut quand même prendre en considération. Ce qu'on réalise, c'est que il y a un déclin présentement des réserves et des ressources, c'est-à-dire le minerai qu'on connaît qui n'est pas encore exploité, mais qu'on va éventuellement exploiter. Donc, on a toujours une vision, une certaine réserve d'avance. Et maintenant, ce qu'on voit, c'est que ces réserves-là diminuent. Donc, on a de moins en moins de minerais devant nous pour exploitation à court terme. Et ce qui est un problème parce que la consommation de métaux à l'échelle globale, elle, augmente très, très, très rapidement. C'est dû en partie à l'augmentation de la population, certains pays qui rentrent dans une ère de développement importante, rapide. Donc, ça met une pression énorme sur la demande en métaux. Donc, ça, c'est, en soi, c'est un défi. Il va falloir trouver plus de métal à l'avenir si on veut garder ce rythme de développement-là. Ça va être un gros défi. On essaie de diversifier de plus en plus de métaux qui sont utilisés. Si on regarde le tableau périodique des éléments aujourd'hui, c'est presque tous les éléments qui sont utilisés d'une manière ou d'une autre dans différents procédés industriels. Donc on ne se limite pas seulement à quelques métaux. Donc, il va falloir améliorer nos connaissances sur différents styles de minéralisation. Comme on le mentionnait, une mine d'or, c'est pas comme une mine de chrome ou une mine de nickel. ou un gisement de terre rare dont on entend parler, ou de lithium. Tous ces éléments-là sont différents. Chaque gisement a ses propres caractéristiques, sont toutes différentes, se forment de façon différente, se retrouvent dans des environnements différents. Donc, il faut continuer à construire notre connaissance, ça élargit de plus en plus. Donc ça, c'est un des beaux défis. Il va falloir trouver de plus en plus de gisements. Et l'autre défi auquel on fait face, c'est que les gisements sont de plus en plus durs à trouver. C'est-à-dire qu'à l'époque de la prospection, on trouvait les gisements souvent en surface. Les prospecteurs allaient en forêt, vérifiaient les endroits où la roche était visible, affleurante, et souvent, il y avait des minéralisations qui étaient présentes là. Donc, on découvrait directement la minéralisation. Cette époque-là est en bonne partie révolue, du moins dans plusieurs secteurs du Canada. Maintenant, les gisements qu'on trouve sont à grande profondeur. Mais on n'a pas nécessairement l'expression de ces gisements-là en surface. Donc, souvent, maintenant, les découvertes se font de façon indirecte. Donc, il faut utiliser différents indices, différents indicateurs pour savoir qu'il y a potentiellement un gisement caché en profondeur sous la surface, à 500 mètres, 1000 mètres, 1500 mètres de profondeur. Donc, maintenant, on a toute une gamme d'outils, une gamme d'informations ou de données qui représentent des indices, finalement, sur la présence potentielle d'un gisement en profondeur. Donc, ça aussi, ça ajoute au défi. Les gisements sont de plus en plus difficiles à trouver. Ils sont de plus en plus en profondeur dans la croûte, souvent dans les secteurs qu'on connaît bien. Donc ça, c'est un gros défi aussi. Donc, les réserves diminuent, la demande augmente, trouver les gisements est de plus en plus difficile. Donc, si on met tout ça ensemble, ça fait que découvrir des gisements est de plus en plus complexe. Et c'est là que les connaissances géoscientifiques, ce qu'on essaie de générer à la Commission géologique du Canada, en partenariat avec les commissions géologiques des provinces, avec l'industrie, avec le milieu académique, bien, c'est d'augmenter nos connaissances. C'est les connaissances, finalement, qui vont nous aider à trouver les gisements plus que la prospection directe dans le futur.
Ça, définitivement, c'est la recherche super intéressante et importante aussi. Alors, si nos auditeurs souhaitaient obtenir de plus amples renseignements sur l'exploration minérale et le type de travail que vous faites, avez-vous des ressources en ligne à leur recommander?
Oui, effectivement. Si les gens sont intéressés à en connaître plus sur ce qu'un géologue ou un géoscientifique fait, bien évidemment, il y a tous les sites là, gouvernementaux comme le site là, du gouvernement canadien, là, de la Commission géologique du Canada ou des provinces ou des territoires qui ont également des sites web qui ont énormément d'informations. Et plus spécifiquement, là, au niveau de l'exploration minérale, là, il y a le site là, de l'Association des prospecteurs et des développeurs du Canada aussi qui est une excellente source d'information. Et comme on est basé à Québec, là, il y a aussi l'Association là, de l'exploration minérale du Québec là, qui a énormément là, d'informations. Puis peut-être que je suis pas certain ailleurs au Canada là, comme à Ottawa, mais comme par exemple, là, où je sais que au Québec, là, l'Association minière là, du Québec là, commence à faire des messages publicitaires là, justement pour expliquer un peu c'est quoi là, l'exploration minière et un peu pourquoi on a besoin là, des métaux là, dans le monde de tous les jours. Là.
Oui, ben, je rajouterais là-dessus, c'est ça, on a mentionné les défis dans le court ou moyen terme, puis un des défis, ça va être les ressources humaines. Ça prend des gens, ça prend de l'expertise pour exploiter un gisement. Donc ça, c'est quelque chose qui va représenter un défi aussi. On doit s'assurer qu'il va y avoir des gens intéressés à être partie prenante de l'industrie minérale au sens large, que peu importe le corps de métier dont on parle, il va y avoir besoin de main-d'œuvre. Et puis c'est important de sensibiliser les gens à l'importance de l'industrie minière. Qu'est-ce que ça représente à différents niveaux? On entend souvent parler de l'impact environnemental, mais bon, au-delà de ça, il y a tout un monde associé aux ressources minérales qui est important au Canada. Donc, il y a de plus en plus d'efforts par différentes organisations, incluant la Commission géologique du Canada, incluant les provinces, incluant l'industrie, à travers ces associations-là, comme Michel l'a mentionné, qui font énormément de diffusion d'informations pour sensibiliser la population à ce que le monde des ressources minérales représente réellement.
Parfait. Alors, on va inclure les liens électroniques dans la description de notre épisode. Alors, si nos auditeurs sont intéressés, ils peuvent aller visiter ces sites. Alors, merci beaucoup, Michel et Patrick, d'avoir pris le temps de venir jaser avec nous aujourd'hui.
Merci.
Merci.
Quelle entrevue intéressante! J'ai adoré les récits de leur travail sur le terrain. Si vous voulez en savoir plus sur l'exploration minérale, jetez un coup d'œil au lien dans la description de l'épisode. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous à notre chaîne. Vous pouvez aussi nous envoyer des commentaires ou partager l'épisode sur les médias sociaux. La Science Simplifiée a aussi un site web et une chaîne YouTube que je vous recommande de visiter. Nous avons des articles et des vidéos intéressants sur le travail scientifique exceptionnel qui se fait ici à Ressources naturelles Canada. Les liens se trouvent aussi dans la description de notre épisode. Merci de votre écoute et ne ratez pas notre prochain épisode.